Réplique, la gauche a-t-elle un avenir, avec Bernard Cazeneuve et Jacques Julliard. Très honoré de recevoir aujourd'hui Bernard Cazeneuve et Jacques Julliard. Bernard Cazeneuve a été ministre délégué aux Affaires européennes, ministre délégué au budget, ministre de l'Intérieur, puis du 6 décembre 2016 jusqu'au 10 mai 2017, premier ministre du gouvernement de François Hollande. Il publie Chaque jour compte, 150 jours sous tension à Matignon. Jacques Julliard, journaliste et historien, retrace son parcours dans l'esprit du peuple. Ce grand acteur et ce grand commentateur de la vie politique ont le réformisme en commun. Ils partagent un même scepticisme devant les surenchères de la gauche radicale, et s'ils sont socialistes, c'est au sens que la social-démocratie a donné à ce terme. Or, la sensibilité social-démocrate n'a pas même été représentée lors de la dernière élection présidentielle. Elle n'a pas été battue, elle a disparu du paysage. D'où ma question, cette disparition est-elle définitive et comment l'expliquer, Jacques Julliard?
Il y a un paradoxe entre le constat que vous venez de faire et qu'on pourrait faire sous une forme légèrement différente dans beaucoup de pays européens, même extra-européens. La social-démocratie est en difficulté, certains disent même en voie de disparition. Or, en même temps, je constate que l'idéal social-démocrate, avec notamment l'idée du bien-être généralisé, le welfare state, reste et peut-être même devient de plus en plus l'idéal des peuples à travers le monde. De quoi rêvent les ouvriers chinois, indiens, brésiliens, sinon d'une forme de social-démocratie? Et même en France, des gouvernements comme celui que nous avons, qui n'est certes pas social-démocrate, est obligé de laisser entendre que son idéal, à tort ou à raison, enfin, de manière sincère ou pas, c'est la social-démocratie. Alors, juste un mot pour commencer l'analyse. C'est vrai qu'actuellement en France, il manque trois choses à la social-démocratie. Des idées, des électeurs, enfin des troupes, et des chefs. Tout ça à la fois. Je ne veux pas analyser tout ça à la fois. Je me contenterai de dire que, en ce qui concerne ce qui est tout de même la base d'un grand parti politique, c'est-à-dire des troupes, des électeurs, des militants, c'est vrai que depuis quelque temps, et je rejoins ce que vous venez de dire, Alain Finkielkraut, la social-démocratie s'est fait faire les poches successivement par le Front National, par Monsieur Macron, enfin les marcheurs, et enfin par Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire les Insoumis. Autrement dit, voilà une formation qui est potentiellement majoritaire, culturellement majoritaire dans la société française, et qui n'a pas trouvé moyen de s'exprimer et d'être reconnu dans ces élections. Il y a là, véritablement, indépendamment des causes générales qui expliquent ces difficultés actuelles, un problème propre à la France. Mais je ne veux pas allonger, je reviendrai sur cette analyse.
D'accord, moi j'aurais beaucoup de questions à poser, mais je voudrais demander sa première réaction à Bernard Cazeneuve, Monsieur le Premier ministre.
Vous partez, Monsieur Finkielkraut, du résultat des élections qui se sont produites au printemps dernier. Ces élections n'ont pas permis effectivement à la famille social-démocrate d'être représentée au premier tour de l'élection présidentielle. Quelles en sont les raisons? D'abord des raisons conjoncturelles qu'il ne faut pas négliger, elles ne font pas toute l'analyse, mais elles expliquent une partie de ce qui s'est passé. Lorsqu'un président de la République est un président sortant, sous la Ve République, qui pose comme principe dans son esprit, dans son texte, l'idée d'une relation particulière entre celui qui est à la tête de l'État et le peuple. C'est la conception qu'en a toujours développé le général de Gaulle. Et que le parti dont il est issu imagine l'organisation d'une primaire pour désigner son candidat, au point que, pour cette raison-là et d'autres encore sur lesquelles nous reviendrons peut-être, le président de la République en question n'est pas en situation de se présenter, il ne faut pas s'étonner que la famille politique en question disparaisse. Les socialistes sont organisés par les primaires, par les divisions, par la contestation permanente de la ligne politique impulsée par le président de la République et ses gouvernements successifs, la disparition de leur propre famille. Parce que les socialistes, bien avant que François Hollande n'arrive au pouvoir, étaient toujours dans cette idée que l'on n'était jamais aussi fidèle à soi-même que lorsque l'on était plus à gauche que ceux qui gouvernaient, d'une part, et d'autre part, que dès lors que l'on pensait ainsi, l'exprimer dans la forme chimiquement la plus pure de la contestation était la meilleure manière de faire. Nous avons le résultat. Il y a par ailleurs un candidat issu de la précédente majorité, je veux parler d'Emmanuel Macron, qui, près d'un an et demi avant l'élection, construit une stratégie destinée à paraître comme le candidat de la social-démocratie et de la modernité. On oublie que Emmanuel Macron, pendant 18 mois avant l'élection présidentielle, a expliqué que face à ce que je viens de décrire, il y avait une possibilité d'être moderne en se plaçant à mi-chemin entre l'efficacité économique et le besoin de protection, que finalement la social-démocratie était cela, et beaucoup d'électeurs socialistes, qui n'avaient pas disparu à l'occasion de l'élection présidentielle, ont pensé qu'en votant pour lui, finalement, il votait pour un président social-démocrate. Le petit problème, c'est que dans le même temps, dans certains départements comme les Alpes-Maritimes ou le Var, qui ne sont pas les départements les plus sociaux-démocrates de France, on voyait les électeurs voter également pour lui. Parce que comme il prétendait tout être en même temps, finalement, la droite et la gauche votaient pour lui. Mais une grande partie de l'électorat social-démocrate a voté pour lui à ce moment-là, pensant qu'il était un président social-démocrate. Et puis enfin, il y a un troisième problème qui ne concerne pas que la France, comme le disait Jacques Julliard, et qui concerne l'Europe dans son ensemble. La social-démocratie européenne face à la mondialisation a été incapable d'incarner une forme de protection qui permette de réconcilier l'ambition de la construction européenne, l'ambition de l'efficacité du marché et l'ambition de la protection, qui sont les trois piliers autour desquels la social-démocratie européenne s'était construite.
Oui, mais alors, Jacques Julliard, vous tirez dans votre dernier livre, L'Esprit du Peuple, des conclusions très catégoriques des élections du printemps 2017. Vous dites, le peuple et la gauche, et plus précisément le peuple et le Parti Socialiste, qui avaient parti liés depuis les origines, ont fait le constat qu'ils n'avaient plus rien à se dire, ni non plus à faire ensemble. Donc, divorce du peuple et de la gauche. Et vous ajoutez dans le même texte que si ce divorce a eu lieu, c'est parce que le Parti Socialiste a abandonné le système de valeurs qui était le sien depuis sa création et procédé sans mot dire à un changement complet de son modèle culturel. Autrement dit, cet échec de la social-démocratie procède aussi, le mot de trahison est peut-être trop fort, mais d'un oubli par le Parti Socialiste et donc par la gauche de gouvernement de ses principes fondamentaux.
J'en suis convaincu. Je pense que les dirigeants socialistes se sont laissés intimider par une partie de la gauche intellectuelle qui n'a jamais été vraiment social-démocrate. Parce que la social-démocratie, je disais il y a un instant, qu'elle est et reste une des aspirations les plus fortes à travers le monde, mais les intellectuels n'ont jamais été social-démocrates. Je ne sais pas si on pourrait trouver l'idéal d'un intellectuel social-démocrate d'hier à aujourd'hui. Alors, le résultat, c'est que sur plusieurs points, le Parti Socialiste, puis c'est de lui qu'il s'agit, s'est désolidarisé de sa tradition historique. Quels sont ces points ? Alors, je commence par l'école, parce que l'école est quelque chose de fondateur. Et depuis fort longtemps, les ministres successifs, imités d'ailleurs par leurs collègues de droite quand la droite était au pouvoir et donc exerçait les responsabilités de l'éducation nationale. sont passés de l'idée républicaine de l'enseignement, permettant à chacun d'aller le plus loin possible, à l'idée que l'école avait pour but de réduire les inégalités sociales. C'est-à-dire, on substituait à son objectif principal un objectif secondaire, ou plutôt dépendant. Et toute la combinaison des idées de Bourdieu et de celles des pédagogues comme Philippe Mérieux ont abouti à faire de la lutte contre les inégalités une telle obsession que ça s'est fait au détriment des principes de l'école elle-même. Je ne veux pas être trop long, mais je voudrais encore ajouter, il n'y a pas que l'école. Il y a tout simplement ce qui va avec, c'est-à-dire la laïcité. Or, sur la laïcité, on vient d'aboutir à une sorte de tête à queue extraordinaire, au point que lorsque vous réclamez de la laïcité, vous êtes aujourd'hui soupçonné d'être de droite. Alors que il y a encore quelques années, et c'est toute la tradition de la République, la laïcité était le point qui permettait de déterminer l'appartenance à la gauche de quelqu'un. C'est quand même extraordinaire. Le Parti radical, qui, pendant une grande partie de la Troisième République, était devenu un parti de centre, peut-être même de centre-droit, restait classé à gauche parce qu'il était laïque. Et aujourd'hui, nous avons une inversion complète qui change complètement la donne et dans laquelle le peuple de gauche, le peuple républicain, le peuple social-démocrate ne se reconnaît pas.
Oui, mais cette inversion, elle vient du fait que c'est l'islam politique qui pose un problème à la laïcité et non plus l'Église catholique.
Exactement.
Et donc ceux qui défendent une laïcité intransigeante sont accusés d'islamophobie, c'est-à-dire ils font du mal aux dominés. Donc une gauche qui se représente le monde par l'opposition entre dominants et dominés voit dans une certaine laïcité l'instrument des dominants pour stigmatiser les dominés. C'est ça.
Je connais cet argument.
C'est ce qui explique en tout cas le renversement paradoxal que vous venez d'énoncer.
Mais au début du XXe siècle, on aurait très bien pu accuser beaucoup de républicains de christianophobie. Et c'était ni plus ni moins vrai que l'islamophobie des laïcs d'aujourd'hui. Et donc, il y a là, encore une fois, la substitution au patrimoine intellectuel de la gauche, à laquelle le peuple de gauche, à mon avis, reste attaché, et une partie donc des socialistes, pas tous quand même, et je crois que pas que ce soit votre cas, monsieur le Premier ministre, mais il y a véritablement là quelque chose dans lequel le peuple ne se reconnaît plus. J'ajoute simplement, avant de vous laisser la parole, qu'on pourrait faire la même démonstration à propos de la nation, qui était devenue, enfin qui était très largement une notion à laquelle la gauche était attachée, depuis Jaurès, Gambetta et combien d'autres. On pourrait faire la même démonstration, et là, je dirais que vous êtes le mieux placé pour le dire, à propos de la sécurité, et qui est une notion à laquelle le peuple est normalement, légitimement et traditionnellement attaché. Donc, il y a ce renversement de toutes les valeurs qui, à mon avis, explique le passage à vide de la social-démocratie.
Oui, je remercie Jacques Julliard pour son long développement parce qu'il me permet à la fois de dire quels sont les points d'accord et de désaccord entre nous et surtout de faire des mises au point, non pas à partir de ce que le bruit de fond de ce que sont les postures idéologiques de tel ou tel, mais à partir de ce que sont les faits. Et pour être extrêmement précis, je voudrais reprendre les exemples qu'il a pris lui-même. En commençant peut-être par la sécurité, mais je traiterai aussi de la laïcité de l'école. Et moi, je veux bien que la gauche ait failli en termes de sécurité, mais enfin, lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité en 2012, nous succédions à un gouvernement de droite, la droite étant dans l'imaginaire collectif ou l'inconscient collectif censée toujours mieux réussir que la gauche en matière de sécurité. Elle avait supprimé 13 000 emplois dans les forces de police et de gendarmerie, à tel point que pour assurer, dans un contexte d'extrême violence de la société, les missions de sécurité qui nous incombaient, il fallait restaurer, au sens premier du terme, notre appareil de sécurité. Nous aurons créé, monsieur Julliard, 9000 emplois pendant 5 ans, et ce sont les socialistes qui l'ont fait, avec le soutien d'une majorité au Parlement, dans les forces de sécurité, dont près de 2500 dans les services de renseignement. Dans le même temps où nous faisons cela, nous étions confrontés à des phénomènes de violence auxquels peu de gouvernements avaient été confrontés avant nous. lorsque j'étais ministre de l'Intérieur pendant près de 3 ans, il a fallu que je fasse en sorte que les Français soient protégés, à la fois de la violence d'un certain nombre de groupes extrémistes qui profitaient de chaque manifestation pour commettre des actes inadmissibles, et nous donnions des instructions aux forces de sécurité pour que dans le respect absolu des principes de droit, il y ait des interpellations qui permettent de mettre hors d'état de nuire ces individus. Et nous l'avons fait de façon systématique et avec la plus grande fermeté. Il a fallu faire face aux attentats terroristes. Je n'ai pas le sentiment que la gauche, dans l'exercice du pouvoir, ait donné le sentiment d'avoir la main qui tremblait face à la menace terroriste. Et nous l'avons fait face à une violence qui se déploie sur Internet dans l'anonymat et qui conduit des individus tous les jours à diffuser des messages qui provoquent au terrorisme, appellent à l'antisémitisme et diffusent la haine. Est-ce que vous avez le sentiment, Monsieur Julliard, que dans le contexte qui a été le nôtre, nous ayons à un quelconque moment, et François Hollande, et Manuel Valls, et moi, et la majorité de l'époque, failli? Je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Nous avons été extrêmement fermes. Deuxième sujet sur lequel je voudrais dire un mot, qui est la question de la laïcité. Pour des raisons qui tenaient au contexte auquel nous avons été confrontés, j'ai eu précisément à faire en sorte que l'État, dont c'est le rôle, prenne des mesures pour faire respecter le texte et l'esprit des lois, et notamment des principes républicains, notamment du principe de laïcité. Lorsque un prêtre est égorgé dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray, lorsque l'on s'en prend à certains de nos compatriotes parce qu'ils sont de confession juive, comme cela a été le cas à plusieurs reprises à la sortie des synagogues ou à l'hypercachère, j'ai pris la décision, et je l'ai prise avec le soutien du Premier ministre de l'époque et du Président de la République, d'être d'une extrême fermeté sur ces valeurs, en faisant en sorte que les lieux de culte soient protégés, parce que la laïcité, c'est la possibilité de croire ou de ne pas croire. Et dès lors qu'on a fait le choix de sa religion, d'être garanti qu'on sera protégé dans son exercice, et l'État a été, de ce point de vue-là, d'une fermeté absolue, et je suis fier d'avoir contribué à faire en sorte qu'il en soit ainsi, nous avons tenté de dialoguer avec les musulmans de France pour qu'ils prennent leurs propres responsabilités face à ces sujets, en leur disant « Vous avez un rôle à jouer pour que les musulmans de France n'aient pas honte de ce que font un certain nombre de ceux qui dévoient leur religion en semant partout la violence. » Nous avons également créé les conditions pour que ces principes soient affirmés dans la conformité parfaite aux lois qui ont désormais plus d'un siècle. Et dans le même temps où nous faisions cela, vous êtes trop fin observateur pour ne pas l'avoir remarqué, il y avait, bien entendu, à gauche, un certain nombre de mouvances, mais qui ne sont pas la gauche, qui sont des partis de la gauche, qui parfois se laissent aller à l'outrance, à la radicalité, qui avaient une autre vision que celle que nous exprimions. Mais il y avait aussi la droite, dont vous dites qu'elle a préempté l'héritage laïque, je ne le crois pas du tout, qui, au nom de la laïcité, tournait la laïcité contre les musulmans. Quand des élus, sans appliquer la loi, en contravention avec elle, implique qu'on ne peut pas mettre des menus de substitution en place dans les écoles, c'est pas la laïcité, ça, c'est son contraire. Donc je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Il y a eu une gauche qui, dans l'exercice du gouvernement, a pris sur les sujets que vient d'évoquer Jacques Julliard des positions extrêmement claires et ses responsabilités. Mais il y a eu effectivement, dans le débat public, un ensemble d'acteurs qui, soit parce que le principe de responsabilité n'était pas leur boussole, soit parce que la posture qu'ils prenaient leur laissait à penser qu'ils en récolteraient quelques fruits sur le plan électoral, ça vaut pour la droite comme pour la gauche, s'éloignaient de ces principes que nous défendions en brouillant le message que nous exprimions.
Jacques Julliard, et puis j'aurais quelque chose à dire. Vous étonnez, monsieur Cazeneuve, je ne suis en désaccord avec rien de ce que vous venez de dire. La seule question que je me pose et que je vous pose, que je nous pose, c'est de savoir comment, avec un bilan que vous venez de dresser, vous n'avez pas été cru par le corps électoral et notamment par la gauche. Comment, s'il en est ainsi, si... Et je suppose que vous êtes d'accord avec mon présupposé, à savoir que le peuple de gauche, comme on dit, l'électorat de la social-démocratie, est attaché à ces valeurs telles que vous les avez décrites. Eh bien, il y a eu un tel crash, aussi bien pour la présidentielle que pour les législatives qui ont suivi. Et moi, mon explication, c'est que la gauche gouvernementale n'a pas été capable de défendre son bilan. Elle s'y est très très mal prise et je dirais que elle était attaquée de l'intérieur. Ce qui a fait un mal énorme à la gauche modérée, ce sont les frondeurs. Ce sont les frondeurs qui, de l'intérieur, critiquaient la plupart des actes de ce gouvernement. Alors, c'est vrai que vous êtes comporté, s'il s'agit de vous, et je dirais même de vos prédécesseurs, de Manuel Valls, par exemple.
Mais je les incluais dans mon raisonnement, bien entendu. Oui, quand je parle de nous, c'est nous tous ensemble.
J'ai bien compris. Il reste que vous avez été en quelque sorte poignardé de l'intérieur et que vous avez perdu la bataille de l'opinion. Vous avez peut-être gagné la bataille par rapport à l'islamisme, en tout cas. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais vous avez perdu la bataille de l'opinion. Et quand on parle de la gauche, on parle de deux choses différentes. La gauche intellectuelle et la gauche politique sont deux choses très différentes. Or, les médias ont joué un rôle là-dedans. C'est la gauche intellectuelle, ou je devrais dire l'extrême gauche intellectuelle, qui a passé pour la véritable expression de la gauche et repoussant la social-démocratie vers le centre, voire parfois vers la trahison.
Alors, je voudrais ajouter... Là, je voudrais dire un mot, parce que ça me paraît vraiment...
Je voudrais dire un mot après. Pardon,
allez-y. Alors, allez-y, peut-être.
Non, c'est simplement ajouter que vous n'avez pas répondu sur la question de l'école. Et là, on ne peut pas imputer l'égalitarisme dont parlait Jacques Julliard aux frondeurs. C'est alors, une politique qui a été menée par votre gouvernement et qui s'est retournée même contre l'idée d'égalité, parce que je crois pouvoir dire que l'égalitarisme aggrave l'inégalité.
Alors, je vais répondre sur l'école, mais je voudrais pousser l'analyse un peu plus loin. Le raisonnement de Jacques Julliard, c'est de dire « je ne conteste rien de ce que vous dites », mais ce que je constate, c'est que vous avez perdu, et comme vous avez perdu, vous avez tort. Bon, c'est un raisonnement que je reçois...
Je n'ai pas dit que vous avez tort.
Que vous n'avez pas réussi à convaincre, que votre discours n'a pas été entendu.
Oui.
Pour être plus précis, vous avez raison de me reprendre sur ce point, c'est cela que vous m'avez dit. Et je voudrais essayer d'analyser les raisons de cela, parce qu'on ne peut pas se contenter du constat, il faut essayer d'aller au bout du raisonnement. D'abord, vous constatez que dans de nombreux pays... ceux qui ont essayé de tenir une ligne rationnelle en menant une politique à partir des faits, non pas à partir des postures ou de l'air du temps ou des instincts, ont été mis en difficulté. On ne peut pas considérer que ce qui s'est passé aux États-Unis est neutre de ce point de vue-là. On ne peut pas considérer que la manière dont les récentes campagnes électorales se sont passées dans les démocraties est un phénomène anodin. Je pense qu'il y a un problème de fond et qui risque de devenir un problème extrêmement déstabilisant pour les démocraties, c'est que dans le débat public, autour des grands enjeux auxquels les sociétés sont confrontées, les faits et la rationalité du raisonnement comptent moins que les postures, les outrances et ce que cela engendre dans le climat. Ça, c'est un élément qui me paraît extrêmement important. Il y a un deuxième élément qui me paraît extrêmement important, c'est que dès lors que les choses sont ainsi et qu'on est dans le débat public, ceux qui font le plus de bruit en convoquant les outrances les plus grandes sont généralement les mieux relayés, y compris par les médias, je le dis, que ceux qui essaient de façon plus rigoureuse de tenir des raisonnements sont plus denses, plus honnêtes souvent. Il y a un troisième élément sur lequel je vous rejoins totalement, c'est que vous dites que vous avez été poignardé de l'intérieur. Et ça me paraît être un élément extrêmement important et sur lequel il faut s'attarder. Moi, je suis quand même très surpris de voir que nous sommes dans un pays et aussi dans un monde où la transgression est devenue la forme la plus chimiquement pure du génie politique. Mmh. Si vous n'êtes pas transgressif aujourd'hui, vous êtes un bonnet. Le fait que vous soyez loyal aux institutions, le fait que vous soyez loyal à celui qui vous a nommé est une incongruité. Et le fait que vous soyez capable de transgresser, de casser tous les codes pour vous frayer un chemin
et même de trahir,
est devenu le nec le plus ultra de la politique. C'est un troisième élément qui est d'ailleurs un signe et un symptôme de la déréliction et de l'abaissement du système politique. Donc, je vois là trois sujets qui me paraissent importants, sur lesquels il n'est pas inutile que nous puissions réfléchir ensemble, parce que je ne crois pas que la démocratie, que la social-démocratie puisse demain retrouver un espace aussi longtemps que l'air du temps sera ce que je viens d'indiquer. L'école, je veux dire un mot sur l'école. Sur l'école, j'ai une position qui est très claire. Je pense que si l'on veut que l'école soit le lieu de l'apprentissage des connaissances, de la diffusion des savoirs, et non pas le lieu du développement de la pensée égalitariste que vous indiquiez, précisément parce que c'est par la diffusion de la connaissance que la promotion sociale se fait, que l'école joue son rôle d'ascenseur social dans la République, je partage tout à fait cela, il faut quand même que l'école dispose de quelques moyens pour accomplir sa mission. Et nous avons été, là aussi, confrontés à une situation où, lorsque nous sommes arrivés, l'école avait perdu 80 000 emplois. Ce qui ne permettait pas, dans les quartiers les plus sensibles, des banlieues les plus en difficulté, des territoires perdus de la République, de faire en sorte que la diffusion de la connaissance soit possible. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense, par conviction républicaine, parce que je suis le fils d'un instituteur laïque, parce que j'ai des souvenirs d'enfance qui ont forgé mes convictions personnelles, c'est que l'école doit être le lieu où, par la culture de l'excellence, par l'accès à la connaissance, par l'accès aux humanités, on permet à ceux qui n'auraient pas contact avec cette connaissance et ces humanités d'y avoir accès par l'école, et l'école doit être le lieu de l'excellence.
Oui, mais monsieur le ministre, je suis la parole à Jacques Judas, mais enfin, vous parlez, notamment dans votre toute dernière intervention, comme l'actuel ministre de l'Éducation, hein, en référence à votre père instituteur laïque, l'accès aux humanités, vous ne parlez pas comme la ministre de l'Éducation de François Hollande, qui a supprimé les classes bilingues, coup porté à l'excellence, ce qui restait d'enseignement du grec et du latin, et donc là, il y a qui a accueilli d'une grimace la nomination de son successeur, sachant précisément qu'il allait dans le sens que vous préconisez aujourd'hui.
Non, mais son successeur, il a été celui qui était dans une mouvance qui considérait qu'en supprimant des dizaines de milliers de postes dans l'éducation nationale, on allait permettre la diffusion des savoirs qui permet de faire l'excellence. Je ne pense pas cela. Je n'ai jamais pensé cela et je ne le pense pas aujourd'hui. Je pense que lorsque Najat Vallaud-Belkacem s'est battue pour qu'il y ait des moyens supplémentaires pour l'éducation nationale, elle avait raison de le faire. Quand on a créé le dispositif plus de maîtres de classe pour faire en sorte que dans les quartiers en difficulté, j'ai visité quelques écoles avec elle, les enfants puissent avoir accès à la connaissance en étant davantage encadrés qu'ils ne l'étaient auparavant, elle répondait à la préoccupation que je viens d'exprimer. Et quand l'actuelle ministre de l'Éducation nationale dit il faut que nous puissions faire en sorte que l'école redevienne le lieu de l'excellence, parce que c'est un objectif républicain que nous devons avoir en partage, je dois, à la vérité, de dire que j'ai un peu de mal à ne pas reconnaître que c'est un objectif que nous devons atteindre, parce que comme républicain, je ne vois pas comment il pourrait être pertinent d'en atteindre un autre.
La gauche a trop souvent abordé la question de l'école en termes exclusifs de moyens. C'est le cas, moi j'ai fait du syndicalisme enseignant, donc je peux en partie plaider coupable, ou en tout cas avoir conscience des limites de cette manière de penser. Et ce que l'on reproche à Madame Vallaud-Belkacem, ça n'est pas du tout d'avoir s'être efforcé d'augmenter les moyens, c'est d'avoir fait une réforme du collège et qui n'était pas conforme précisément à cette tradition républicaine qui consiste à embrasser tout le savoir et considérer que tout jeune enfant a droit à ce savoir, même si naturellement chacun ne pourra en acquérir qu'une partie. Et là-dessus, c'est assez. Moi, je trouve assez triste de me retrouver davantage dans les idées de l'actuel ministre, moi qui suis de gauche, dans les idées de l'actuel ministre de l'Éducation que dans celles du précédent. Mais laissons cela. Je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'essentiel en disant que la social-démocratie ne dispose pas des armes de la transgression, parce que ça n'est ni son tempérament, ni celui des gens qu'elle représente. La transgression est une mode bourgeoise et intellectuelle, bobo si vous voulez, et ça n'est pas celle du peuple. Et je crois que il faut que le Parti Socialiste, pour dire les choses clairement, retrouve ses racines populaires s'il veut retrouver la voie du pouvoir. Je suis convaincu que c'est là le point essentiel. Le fait que le Parti Socialiste aujourd'hui n'a plus de relais, ni dans les, enfin, très peu, dans les syndicats, dans les mouvements sociaux, dans les mouvements de jeunesse, etc. Ça, ou alors de manière assez désastreuse, à travers des groupes qui sont devenus des groupuscules, on le voit aujourd'hui, eh bien, c'est une raison de son échec. Moi, personnellement, je ne suis nullement inquiet, à moyen terme, sur l'avenir de la social-démocratie. Je suis persuadé que ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la tripartition de l'espace politique, avec un grand centre autour de Macron, une gauche dont le principal pôle est d'extrême gauche, c'est-à-dire c'est les insoumis, et une droite qui est en train de tendanciellement de regrouper le Front National et peut-être une partie de l'électorat de la droite classique, ceci n'est que provisoire. Autrement dit, que le clivage entre la gauche et la droite n'a nullement disparu. Simplement, se surajoute à ce clivage dans la population, un clivage au niveau politique et gouvernemental qui est tripartite. Donc, je ne suis pas profondément inquiet. Je pense simplement qu'il faut que les socialistes retrouvent un langage commun avec le peuple, ce qui n'est plus du tout le cas. Il faut aussi qu'elle se trouve des chefs et un chef. C'est peut-être un paradoxe de la part d'une mouvance qui a toujours privilégié les idées sur les personnalités. Et pourtant, chaque fois que la gauche a refait son unité ou est parvenue à l'efficacité, voire au pouvoir, c'était autour d'une personnalité qui, d'ailleurs, la plupart du temps, ne venait pas de son sein, mais était extérieur. Jaurès n'était pas socialiste à l'origine, Blum encore moins, Mendès France ne l'était pas, et Mitterrand non plus. C'est un étrange paradoxe, celui-là, que je suis bien incapable d'expliquer.
Bernard Cazeneuve.
Sur la refondation de la gauche et la manière de faire en sorte qu'il y ait de nouveau ce lien dont Jacques Julliard estime qu'il a été rompu, il y a d'abord une chose qui me paraît absolument fondamentale, c'est la nécessité de ne pas perdre le contact avec le réel pour ne pas perdre le contact avec le peuple. Je pense que l'on ne peut pas, dans le contexte de la mondialisation, compte tenu de ce qu'est l'éloignement des Français de la vie politique, continuer à prendre des postures totalement décalées de la réalité pour mener des politiques qui sont bien entendu des politiques qui est décalées des promesses de campagne. Et je crois qu'il est très important, si la gauche veut retrouver de la force demain, qu'elle s'inscrive dans une démarche que je qualifierais de néo-mendésiste, c'est-à-dire reprendre l'exigence intellectuelle, la démarche de Pierre Mendès France, partir du réel pour transformer la société et le faire avec, encore une fois, un souci de la vérité, de la rigueur et un sens de l'État. C'est la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister. Le sens de l'État, pourquoi ? Parce que ce qui m'a frappé pendant les 5 ans du gouvernement, c'est que nous avons été mobilisés dans une adversité considérable face à des problèmes inédits, je pense notamment au terrorisme, pour faire en sorte de protéger le pays et le transformer. Beaucoup de réformes ont été engagées. La réforme du droit du travail, nous l'avons engagée. La réforme de l'économie à travers le pacte de responsabilité qui permet aujourd'hui d'avoir de premiers résultats économiques, nous l'avons engagée. Mais nous avons engagé dans un contexte où les préoccupations de congrès pour une partie de la gauche l'emportaient sur la responsabilité que dicte l'exercice de l'État. Et le sens de l'État me paraît être un deuxième élément sur lequel il faut absolument que nous ne perdions pas de vue l'essentiel. Puis, il y a un troisième sujet qui me paraît là aussi très important, c'est le sens de l'action collective. Je pense qu'il faut bien entendu un chef, mais qu'il faut aussi que tous ceux qui ont sombré dans cette tentation entretenu par la numérisation de la société, les chaînes d'information en continu, de l'égotisme politique, au point d'aller tous les jours à la télévision pour apporter la démonstration qu'ils sont indispensables, en ayant depuis longtemps oublié de se poser la question de savoir s'ils étaient encore utiles, comprennent que c'est dans l'action collective, dans une ambition sincère, dans la volonté de transformer la société, que la gauche peut retrouver un peu de sa force.
Oui, mais Jacques Julliard, vous parliez donc du divorce de la gauche et du peuple. C'est vrai, mais d'un autre côté, diriez-vous que une partie du peuple déçue par la gauche s'est tournée vers la gauche radicale? Ou je pose la question autrement, comment expliquer le succès de la France insoumise aux élections? Ce succès est-il durable? Et je me pose d'autant plus fortement la question que j'ai vu il y a quelques jours Jean-Luc Mélenchon à la télévision, c'était l'émission politique, et j'ai assisté à son face-à-face inouï avec Laurence Debray. Celle-ci parlait de la misère à laquelle le régime chavésiste a réduit le peuple vénézuélien. Elle citait l'exemple de sa grand-mère, institutrice. Et elle disait qu'on ne pouvait pas imputer cette misère à l'Amérique puisque le pétrole, principale ressource du Venezuela, est nationalisé depuis longtemps. Jean-Luc Mélenchon l'a insulté. Il l'a accusé d'utiliser des éléments de langage et lui a dit qu'elle avait eu son quart d'heure de gloire. Moment de haine idéologique très rare à la télévision, c'est-à-dire elle était coupable de parler d'une misère qui n'est pas imputable aux dominants. Une misère, autrement dit, qui mettait à mal l'idéologie dichotomique de la gauche radicale. Et les militants de la France insoumise ont dit sur les réseaux sociaux que finalement cette Laurence Debray était une ex-banquière macronienne. Autrement dit, son témoignage était invalidé. On aurait cru des bolcheviks parlant des koulaks. Donc ça, c'est extrêmement révélateur de quelque chose. Et comment se fait-il que, précisément, ce soit ce soit la France insoumise qui tire les marrons du feu, selon vous, Jacques Julliard?
Je pense que l'exercice du pouvoir, qui est à la fois le bonheur et en même temps l'épreuve de la gauche modérée par rapport à la gauche extrême, est aujourd'hui extrêmement difficile à assumer vis-à-vis de l'électorat. Il y a une sorte de suspicion généralisée à l'égard des gouvernements, considérés comme toujours ou bien inférieurs à leurs tâches, ou bien ayant comme une sorte d'ADN de la trahison que le gauchisme impute à la social-démocratie. C'est pas nouveau, hein. Les communistes allemands, sous la République de Weimar, faisaient de la social-démocratie la meilleure alliée d'Hitler. C'est l'inverse qui s'est révélé exact. C'est au contraire le gauchisme, de soit dit en parenthèse, du communisme allemand, qui a été pour quelque chose dans l'ascension de Hitler. Mais laissons cela. Il est de fait qu'il est difficile d'assumer le pouvoir. Et on peut se poser la question, puisque vous la posez à propos de Jean-Luc Mélenchon, de savoir si son comportement indique qu'il a envie d'être au pouvoir. Ça n'est pas certain. Il a été, lorsqu'il a été lui-même au pouvoir, il a été, soit dit en parenthèse là aussi, un ministre très modéré, très apprécié des milieux patronaux à cause de ses conceptions en matière d'enseignement technique. Donc c'est un homme qui est un petit peu imprévisible de ce point de vue-là, en tout cas qui peut changer beaucoup. Mais sur le positionnement qui est le sien à l'heure actuelle, qui est comparable à celui de la gauche allemande, Die Linke, ce sont des gens qui pensent qu'au fond, la vocation actuelle de la gauche n'est pas d'exercer le pouvoir, mais d'exercer de l'extérieur et de l'opposition une pression sur les gouvernements, probablement parce que la gauche ne peut pas faire plus. Il me semble que le gauchisme à l'heure actuelle est un aveu d'impuissance. Et l'idée que la gauche n'est pas faite décidément dans cette société, la gauche n'est pas faite pour le pouvoir. Il est évident que lorsqu'on raisonne comme ça, eh bien, on clive énormément parce que l'électorat de gauche, lui, attend de la gauche qu'elle reconquiert à certains moments le pouvoir. C'est une question à la fois économique, parce qu'elle en attend une amélioration de sa situation. C'est une question aussi d'identité. C'est une question culturelle. Si la gauche abandonne la perspective du pouvoir, elle perd ce que un certain nombre de gens, comme Mendès Franck, comme Mitterrand, qu'on vient de citer, avaient obtenu pour elle, c'est-à-dire d'être véritablement au minimum la moitié de la société.
Bernard Cazeneuve.
Oui, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon doit être combattu absolument pour des raisons de fond, qui tiennent au fait que nous appartenons, Jacques Julliard, une grande partie des sociodémocrates, moi-même, à une tradition qui est une tradition humaniste, qui est héritière de ce qu'a pu faire Pierre Mendès France, du message de Léon Blum, du message de François Mitterrand, et nous ne sommes pas les héritiers de Chavez et de ses successeurs. Bon, il y a un élément qui me paraît très fort dans le discours de Mélenchon, c'est qu'il faut la colère partout. Et pour être sûr que la colère sera bien partout, toutes les outrances sont autorisées. Et lorsque il y a des interlocuteurs qui, avec beaucoup de dignité, comme ça a été le cas il y a de cela quelques jours, de Laurence Debré, interviennent pour dire il y a quand même quelques sujets au Venezuela, se référant aux propos de Jean-Luc Mélenchon lui-même et mesurant l'adéquation de ses propos à la réalité, alors là, il n'y a plus aucune maîtrise. La colère qu'il appelle de ses voeux, comme devant être le moteur de la gauche, convoque toutes les outrances jusqu'à l'insulte, vous l'avez souligné lui-même. J'en ai été moi-même l'objet lorsqu'il a indiqué que j'étais ce gars qui avait organisé l'assassinat d'un jeune garçon pendant une manifestation, ce qui est bien entendu abject comme procédé, qui est un procédé qui est très loin du procédé de dénonciation à travers les indignations justes d'un Zola lorsqu'il écrit J'accuse. C'est tout le contraire de cela. La colère, ça ne peut pas être le moteur de la gauche. Le moteur de la gauche, c'est l'espérance. C'est pas la colère. La colère conduit dans une impasse, surtout lorsqu'elle est attisée sur tous les sujets, par la convocation de toutes les outrances, jusqu'à, parfois, aller à l'encontre de ce que sont les valeurs fondamentales auxquelles nous nous sommes toujours référés lorsque, républicains humanistes, nous entendions mener des combats mobilisateurs. Et ce qui a été dit à l'occasion de cette émission, notamment, sur le fait qu'on pouvait faire quelques concessions au principe de la laïcité, accepter des réunions dans lesquelles les uns sont et pas les autres, qu'on n'a pas à s'ériger en censeur de cela. Si on a à s'ériger en censeur de ce type de procédé lorsque l'on est républicain, parce qu'on touche à des choses absolument essentielles. Et je pense que dans le climat de tension dans lequel est le pays, aller alimenter l'idée tous les jours que ceux qui sont en situation de violence sont légitimes à l'être parce que la République fait tout pour les ostraciser, est une pensée absolument pernicieuse qui ne peut conduire la République que à l'abaissement et au déchirement. Et ça, c'est tout à fait irresponsable, c'est gravissime. Et à tous ceux qui, à gauche, pensent que, parce que François Mitterrand a fait le lion de la gauche, il faut se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon, essayer de faire avec lui des choses pour reprendre le pouvoir, ne se rendent pas compte que, précisément, si Mitterrand était là aujourd'hui, pour toutes les raisons que je viens de dire, il ne préconiserait pas l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon, mais sa réduction par la dénonciation de ce qu'il est avec la plus grande détermination et la plus grande force républicaine, parce que c'est une nécessité au regard de ce que nous sommes historiquement et de ce qu'est la République.
Il est vrai que dans cette émission, Jean-Luc Mélenchon a été interrogé sur Daniel Obono. Il a dit deux choses, qu'il était en désaccord avec elle, mais qu'il ne voulait pas exercer de police de la pensée, et il a laissé entendre en effet qu'il y avait un racisme d'État, donc pas de police de la pensée contre Daniel Obono. En revanche, une attitude extrêmement violente à l'égard de Laurence Debré.
Mais il n'est jamais pour la police de la pensée lorsque l'essentiel est en cause. Lorsqu'au premier tour de l'élection présidentielle, il s'agit face à Marine Le Pen de savoir si on choisit Marine Le Pen ou la République, et cette question-là, elle n'implique pas qu'on organise un référendum par Internet, elle implique qu'on convoque sa conscience, là, il ne veut pas s'ériger en directeur de conscience. Lorsqu'il s'agit des propos de Madame Obono, il ne veut pas s'ériger en directeur de conscience. Mais lorsqu'il s'agit de salir ses adversaires en convoquant toutes les outrances et les contre-vérités, là, il n'hésite pas à le faire. Ça pose quand même un problème fondamental, qui est un problème de comportement éthique dans la sphère républicaine.
Je voudrais introduire un élément nouveau dans ce débat. Il me semble que le clivage actuel de la gauche est inquiétant parce que j'ai essayé de définir dans mon livre, je fais ça un peu toute ma vie, la gauche comme le lieu de rencontre du progrès scientifique et de la justice sociale. Ces deux éléments existaient précédemment. Au fond, la gauche existe à partir du moment où quelqu'un a, à l'intérieur d'une formation nouvelle qu'on appelle parti, la possibilité de conjuguer ces deux notions. C'est là-dessus que vivent tous les grands ancêtres de la social-démocratie depuis Jaurès. Or, aujourd'hui, nous voyons clairement que la position des modérés consiste à dire « il faut d'abord produire avant de distribuer », Hollande l'a dit, à mon avis justement, y compris dans son discours du Bourget qu'on lui jette toujours à la tête, et puis ceux qui pensent que la justice sociale n'a pas de précédent, n'a pas de condition, qu'on arrive au pouvoir uniquement pour distribuer. Et c'est la position de l'extrême-gauche. Et tant qu'on n'aura pas réconcilié ces deux idées, je crois que la gauche sera boiteuse et elle restera profondément minoritaire. Alors, il y a véritablement un travail de formation, d'information, de réflexion à mener là-dessus.
Mais alors, ne faut-il pas ajouter un autre élément ? Et là, je me fonde sur votre livre aussi, Jacques Julliard. Vous dites, sous la reine Victoria, il y avait des mots interdits parce qu'ils évoquaient indirectement le sexe. La gauche est devenue, dans sa manière de penser, de parler victorienne, et un des mots, le mot qu'elle ne veut pas utiliser, c'est le mot « identité », auquel Sarkozy avait déjà donné la pire connotation politicienne. Et vous dites que dans un tel climat, le simple désir de respirer librement éloigne de la gauche un certain nombre d'intellectuels. Donc, en effet, justice sociale et progrès scientifique, production et distribution, mais effectivement, l'inquiétude identitaire qui, aujourd'hui, étreint un certain nombre de peuples européens face à une mutation démographique à laquelle rien ne les préparait et pour laquelle ils n'ont pas été consultés, et ne revient-il pas à la gauche aussi de la prendre en compte et ne paie-t-elle pas le fait de la considérer avec beaucoup de suspicion ? Je vous pose la question à tous deux, Bernard Cazeneuve et Jacques Julliard, pour finir.
Je trouve que le débat sur la question identitaire est un débat mal posé. Parce que il est toujours posé sur le mode de l'hystérisation du débat politique. Lorsque l'on pose la question identitaire, on la pose nécessairement sur le thème « Quelle est l'identité dont je me réclame et en quoi s'oppose-t-elle à toutes les autres ?» Je pense qu'il ne faut pas poser la question d'identité comme ça. L'identité, c'est l'implicite de la politique. Chacun qui exprime une idée, qui exprime des valeurs et qui les exprime avec force et conviction, donne à sa pensée une identité et peut contribuer, dès lors qu'il exerce le pouvoir, à donner à son pays un message qui porte des valeurs et qui les incarne. Lorsque François Mitterrand parle du discours que les peuples du monde ont appris à aimer de la France, il parle de quoi ? Il parle des valeurs universelles qui ont présidé à un certain nombre de grands discours qu'il a pu faire et que d'autres avant lui avaient fait, et qui faisaient ces discours l'image, le message de la France. Donc moi je suis pas du tout désireux de voir la gauche ne pas dire qui elle est, mais je ne suis pas désireux de voir le débat politique se réduire à un débat entre des identités irréductibles qui s'opposeraient les unes aux autres en oubliant de traiter de tout le reste. Ça, je pense que ce n'est pas une bonne manière de reconquérir l'opinion et de dire ce que nous sommes. La question identitaire, elle est l'implicite de la politique. Lorsque nous nous exprimons avec Jacques Julliard, comme nous le faisons aujourd'hui, en nous opposant sur certains sujets, en disant ce que nous pensons sur d'autres, nous disons qui nous sommes. Et si nous exerçons le pouvoir demain, nous dirons quel est notre pays.
Bernard Cazeneuve, l'identité, ce ne sont pas simplement des valeurs, c'est non-chose, ce sont aussi des choses, ce sont aussi des paysages, c'est aussi une civilisation. Et n'incombe-t-il pas à la gauche de la prendre en charge, si vous voulez. La gauche est progressiste, mais aussi elle a besoin de prendre en charge un certain héritage.
Mais bien entendu, mais moi je suis très frappé. Ce qui m'inquiète aujourd'hui au regard de ce que vous venez de dire, c'est pas du tout l'incapacité de ceux qui font de la politique à entretenir une relation tellurique avec le pays. Moi, lorsque je vais aujourd'hui signer mon livre ou lorsque je suis allé à plusieurs reprises au cours des dernières années soutenir des candidats, j'ai senti cette relation tellurique avec le pays, avec ses paysages, avec ses sites, avec ses éléments de patrimoine. Et je vois mal comment on peut faire de la politique sans sentir tout ça. Ce qui me paraît beaucoup plus inquiétant, c'est la coupure du discours politique avec les leçons de l'histoire. Vous parliez tout à l'heure de la modernité, du nouveau monde qui arrive. Moi, ce qui me frappe dans la période qui s'est ouverte au mois de mai, c'est que nous avons le sentiment que tout a commencé au mois de mai, que rien n'existait avant, et
oui,
que nous
vrai.
Sommes les héritages
du nouveau monde,
que nous sommes les héritiers de rien, comme si le nouveau monde était un monde neuf qui ne s'adossait à aucune sédimentation, qui ne venait de nulle part. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est l'absence de réflexion historique, ce sont les fils de l'histoire que l'on cherche à couper, c'est le fait qu'on est dans un processus ahistorique sur le plan politique. Ça me préoccupe davantage que la question de l'identité, parce que ça me paraît avoir des conséquences beaucoup plus graves.
Ça en fait partie.
Bien sûr.
Parce que moi, je pense que j'approuve tout à fait ce que vous venez de dire. Je crois qu'il faut être paisiblement identitaire, comme l'a toujours été la gauche. Michelet, qui, que je sache, n'est pas étranger à au génie même de la France et de la France de gauche, considère la France comme une personne, et si ça n'est pas identitaire, cela, et je dirais que Peggy, pas à l'autre bout, mais dans une autre tonalité, dit à peu près la même chose. Je suis en désaccord avec une gauche qui ne veut pas entendre parler d'identité et qui en même temps pose toujours la question de la gauche en termes d'identité. Le gouvernement de M. Cazeneuve n'est pas de gauche. Mais à partir de quels critères dites-vous cela? Autrement dit, il y a là quelque chose de contradictoire. Je pense qu'aussi bien la droite que l'extrême gauche se servent, instrumentalisent l'identité, alors que moi, personnellement, je la vis tranquillement.
Alors vous dites paisiblement, j'aurais quand même une dernière question en référence à une citation d'un autre auteur que vous avez pratiqué, Jacques Julliard. Edgar Quinet, il dit à peu près ceci, le véritable exil, ce n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de n'y plus rien rencontrer de ce qui le faisait aimer. Donc c'est ça l'inquiétude identitaire aujourd'hui dont il me semble que toutes les formations politiques devraient se soucier, et notamment la gauche, si elle veut être fidèle à Quinet, à Michelet et comme vous à Peggy, Jacques Julliard.
Oui, moi je trouve cette citation que, enfin je la connaissais pas, elle est très belle et j'ai envie qu'on reste dessus, tout simplement.
Bon, mais très bien, alors je vais dire, pour être tout à fait exact, que je ne la connaissais pas non plus, je l'ai découvert dans un manuscrit d'un de mes anciens élèves de Polytechnique, Vincent Lebier. Et quand un élève, si vous voulez, apprend quelque chose à son ancien maître, l'ancien maître est très content. Je voulais vous remercier, en tout cas Bernard Cazeneuve et Jacques Julliard, pour cette passionnante discussion, et aux auditeurs qui sont nombreux sans doute à vouloir approfondir la réflexion, je voudrais dire qu'ils ont tout intérêt à lire les deux livres de Jacques Julliard, L'Esprit du Peuple, dans la collection bouquins, chez Robert Laffont, et de Bernard Cazeneuve, Chaque jour compte, 150 jours sous tension, à Matignon, chez Stock. Je voudrais aussi renvoyer au livre de Jacques Julliard, L'école est finie, pour lequel j'ai une tendresse particulière, qui a été publié chez Flammarion.
Merci.
La semaine prochaine, l'émission aura pour titre L'exploration du futur, transhumanisme et intelligence artificielle. Mes invités seront Laurent Alexandre et Olivier Rey. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pascal Bénard. Dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannenet.